affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. À moins d'être un ermite retiré du monde, vous n'avez certainement pas pu échapper à l'engouement et au débat passionné que suscite aujourd'hui l'intelligence artificielle. Et comme tout un chacun, vous oscillez certainement entre crainte et espoir, tant le sujet déchaîne les superlatifs. Tantôt, nous espérons que l'intelligence artificielle assure notre salut, tantôt nous redoutons qu'elle ne cause notre perte, tantôt nous croyons que son potentiel est infini, tantôt nous pensons qu'elle n'est qu'une illusion. Comme nombre de nos contemporains, nous oscillons ainsi entre technolâtrie et technophobie. Pris dans ce maelstrom informationnel, nous ne savons plus à quel saint nous vouer, et c'est probablement parce qu'en fait la question est mal posée. En effet, avant de s'interroger sur l'intelligence artificielle, peut-être aurait-il fallu d'abord s'interroger sur l'intelligence tout court. Et c'est à cette réflexion que nous invite notre invité de ce jour. Nous avons en effet la chance de recevoir dans notre studio Olivier Houdet, auteur d'un ouvrage dont le titre claque comme un manifeste ou un rappel à l'ordre, l'intelligence humaine n'est pas un algorithme et dont l'objet est précisément de se pencher avec notre intelligence sur cet objet curieux qu'est l'intelligence et plus précisément l'intelligence humaine, non sans remettre en cause un certain nombre de préjugés que nous avons sur elle. Nous verrons ainsi notamment que 50 ans après mai 68, il est nécessaire de réévaluer le rôle que peut jouer l'inhibition dans notre façon d'appréhender le monde avec exactitude. Monsieur, bonjour, merci. D'avoir accepté notre invitation. Je dois d'abord vous présenter et préciser que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, à laquelle vous avez été élu, si je ne me trompe pas, en 1998, au fauteuil précédemment occupé...
En 2018, pardon.
Première erreur de cette émission qu'on comportera certainement d'autres, tant le sujet est ardu. En 2018, au fauteuil occupé par le professeur Lucien Israël, et que vous êtes directeur honoraire du laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant de la Sorbonne. Mais peut-être faut-il commencer par le commencement et par la naissance de votre vocation, car elle éclaire grandement vos travaux. Précisons donc que vous avez commencé à vous intéresser à l'intelligence par le plus beau des métiers, celui d'instituteur. Pouvez-vous nous parler de ce point de départ ?
En effet, c'était un rêve pour moi que d'éveiller l'intelligence des enfants à ce qu'on appelle la cognition, c'est-à-dire comment le cerveau apprend à organiser le réel au cours des âges, au cours du développement, et en même temps éveiller les enfants à la beauté. J'étais peintre passionné, amateur durant mon adolescence, et il fallait néanmoins faire un métier. Je me suis dit, instituteur, c'est parfait, je pourrais apprendre aux enfants à peindre, dessiner, tout en leur apprenant les mathématiques, le français, la poésie, et aussi le raisonnement logique, qui est une valeur contemporaine essentielle.
Alors la vie est parfois faite de hasard, et le hasard peut prendre la forme d'un livre. Il se trouve que faisant vos études et préparant votre thèse, préparant au métier d'instituteur, vous tombez sur un ouvrage de Jean Piaget, un ouvrage titré « La formation du symbole chez l'enfant ». Et cela va bouleverser votre
vie. Ce fut une révélation. Alors j'ai choisi pour ce mémoire d'études d'instituteur de m'intéresser à la question de la lecture. Très importante dans l'Institut de France, la lecture, puisque c'est l'apprentissage de la langue écrite. Mais pour comprendre l'acquisition de la lecture, il faut aussi étudier finement les prérequis à l'école maternelle. Et l'un des prérequis, c'est évidemment la formation des symboles, la capacité à concevoir le statut d'un symbole pour le jeune enfant. Et Piaget, Jean Piaget, le grand savant suisse, le grand psychologue de l'enfant au XXe siècle, avait écrit de nombreux livres, dont celui-là, La formation du symbole chez l'enfant. J'avais 20 ans, je lis ce livre et je découvre qu'il existe une science expérimentale comme l'est la physique, comme l'est la chimie, une science expérimentale de l'intelligence des enfants. Et ce fut une révélation. Je me suis dit, on ne m'a jamais dit ça dans ma famille, qui pourtant était cultivée, ni à l'école, qu'il existait aussi une science psychologique et que les sciences n'étaient pas seulement les sciences naturelles classiques. Et j'ai, à partir de ce livre, décidé de consacrer ma vie à l'étude du développement de l'intelligence chez l'enfant avec une approche scientifique expérimentale, comme l'avait préconisé Claude Bernard au XIXe siècle.
Alors précisément, vous avez parlé de prérequis pour la lecture. La connaissance des travaux de Piaget est un prérequis pour la compréhension de notre émission et de vos travaux. Pouvez-vous nous les développer ?
Alors Piaget est très connu dans le monde entier pour avoir compris, exploré les stades du développement de l'intelligence chez l'enfant. Il a ainsi décrit 4 grands stades qui se succèdent. Le premier chez le bébé, juste après la naissance, de 0 à 2 ans, il s'agit du stade sensorimoteur, c'est-à-dire que l'intelligence du bébé, la façon dont il comprend le monde physique et social qui l'entoure, est basée sur les sens, la vision, l'ouïe, le toucher, et la motricité, les actions que le bébé fait dans le réel. Ici, dans ce studio, je prends le verre qui est devant moi, au milieu de la table, et je le rapproche de moi. C'est une action, c'est déjà une forme d'intelligence, d'adaptation. Donc, stade sensorimoteur de 0 à 2 ans. C'est notamment à ce stade-là que le bébé construit ce qu'on appelle la permanence de l'objet. Une fois de plus, si je prends la bouteille qui est sur cette table dans le studio, que je la cache derrière mon dos, il est évident pour vous, Christophe, qu'elle continue d'exister. Votre cerveau infère la permanence de l'objet. C'est déjà de l'intelligence. Donc le bébé construit des schèmes fondamentaux de l'intelligence à travers la vision, l'action, ainsi jusqu'à l'âge de 2 ans. À partir de 2 ans naît ce qu'on appelle la pensée symbolique. C'est le stade que Piaget appelait préopératoire, prélogique, parce que l'enfant n'a pas encore un raisonnement logique, mais a déjà une pensée symbolique. C'est-à-dire, imagine les objets de façon symbolique et s'en souvient sans les voir. C'est pourquoi d'ailleurs je m'intéressais à la formation du symbole chez l'enfant pour les prérequis à l'acquisition de la lecture. Ce stade dure environ de 2 ans à 6 ans. L'enfant a déjà des représentations mentales, mais fondées sur des intuitions. Il se trompe, il est illogique. À partir de 6-7 ans, ce que les philosophes ont toujours appelé l'âge de raison, l'enfant devient logique, mais sur des objets concrets. Il peut par exemple compter un nombre de jetons. Il peut catégoriser des formes de couleurs différentes. Donc catégorisation et dénombrement, qui s'ajoutent à la permanence de l'objet, font déjà une belle architecture de l'intelligence. Mais il manque encore à l'enfant, on va dire, d'école primaire, entre 6 ans et 12 ans, l'intelligence plus abstraite, formelle. Et c'est le dernier stade qui arrive à l'adolescence, que Piaget appelle le stade hypothético-déductif, où l'enfant, grâce à son cerveau, l'enfant devenu adolescent, considère une chose très belle, évoquait Piaget. Je vais vous rappeler cette formule. Piaget disait, avant l'adolescence, donc aux 3 stades précédents que j'ai décrits, le réel, j'inverse, avant l'adolescence, le possible est un cas particulier du réel. C'est-à-dire ce que l'on peut faire avec les objets, les compter, donc les dénombrer, les catégoriser selon la forme, la couleur, la fonction pour l'enfant, mais c'est ce qu'il peut faire dans le réel. Et à l'adolescence, grâce au dernier stade de raisonnement hypothético-déductif, c'est le réel qui devient un cas particulier du possible. C'est-à-dire que l'enfant peut imaginer le monde autrement, faire des hypothèses, tirer des déductions. C'est pourquoi l'enfant devient un peu comme un savant, un scientifique ou un artiste qui, avant de peindre ou avant de créer une mélodie, imagine quelque chose qui n'a pas encore existé, mais qui pourrait exister et dont il pourrait déduire ses actions de scientifique, des conditions expérimentales ou son acte créatif s'il s'agit d'un artiste. Voilà les 4 stades de l'intelligence selon Piaget. Et Piaget les décrivait comme un escalier. C'est-à-dire que chaque enfant, disait-il, où qu'il soit dans le monde, doit d'abord passer par le stade sensorimoteur jusqu'à 2 ans, ensuite le stade prélogique intuitif jusqu'à 7 ans, ensuite le stade logique mais encore concret jusqu'à 12 ans, et enfin logique formelle où l'intelligence de l'adolescent rejoint celle de l'adulte avec l'idée que la montée cet escalier conduit pour Piaget à la rationalité. Et selon Piaget, les adultes sont des êtres logiques, rationnels. Je Alors crois vous avoir résumé ainsi la théorie de Piaget sans, je pense, le trahir.
Vous nous l'avez décrite et vous semblez y adhérer. Et pourtant, au fil de votre carrière, vous allez non pas la remettre en cause totalement, mais y apporter un certain nombre de correctifs extrêmement important. Sur quel point porte-t-il ?
Vous décrivez très bien les choses. C'est-à-dire que j'ai écrit un certain nombre de livres qui restituent la théorie de Piaget dans un cadre plus contemporain. Donc je pense être l'un des auteurs qui rendent le plus hommage à Piaget et qui en parlent encore aujourd'hui. Quelquefois, on me dit, des anciens me disent « Ah, qu'est-ce qu'on est content de réentendre parler de Piaget au Collège de France ou à l'Académie ou à la Sorbonne. » Donc, je lui rends hommage. En même temps, ayant étudié maintenant depuis 30 ans cet stade du développement de l'intelligence de façon très précise, y compris avec des technologies d'imagerie cérébrale, j'ai découvert que les stades de Piaget étaient inexacts, voire faux. C'est-à-dire que le développement, je l'ai découvert tout d'abord lors de ma thèse de doctorat. J'ai fait une thèse entière sur les activités de catégorisation que j'évoquais tout à l'heure. Comment l'enfant apprend à catégoriser les objets qui l'entourent, selon leur forme, leur couleur, leur fonction, d'abord de façon concrète, puis abstraite, pensait Piaget. Et j'ai découvert chez les enfants, dès la maternelle, des capacités très logiques, même taxinomiques, de catégorisation. Et après, l'apparition de la logique d'inclusion des classes, où l'enfant est par exemple capable de vous dire que face à 10 fleurs, 8 marguerites et 2 roses, vous demandez à l'enfant, il y a 8 marguerites et 2 roses sur la table, vous demandez à l'enfant, y a-t-il plus de marguerites ou plus de fleurs ? Les plus petits du stade intuitif dont je parlais vont dire plus de marguerites. Ils raisonnent de façon intuitive et pas encore logique. Les enfants, à partir de 6-7 ans, vont dire « Ah ben, plus de fleurs, parce que les roses sont aussi des fleurs, et il faut s'abstraire donc du matériel pour penser la logique de l'inclusion. »
Oui, jusque-là, ça vérifie Piaget.
Voilà, jusque-là, ça vérifie Piaget. Mais je me suis amusé à poser aux enfants la question suivante, donc les enfants qui réussissent vers 7-8 ans. L'enfant dit « Oui, il y a plus de fleurs que de marguerites. » D'accord, il y a beaucoup de marguerites, mais il y a quand même de roses, donc ça fait plus de fleurs. Et je demande à l'enfant, je demandais à l'époque à l'enfant, c'était à la fin des années 80, début 90, je demande à l'enfant, d'accord, il y a plus de fleurs que de marguerites, mais est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour obtenir plus de marguerites que de fleurs ? Et là, la théorie de Piaget prédisait que l'enfant allait dire, c'est impossible, on ne peut pas. Et tous les enfants répondent, ah ben c'est facile, t'as qu'à ajouter des marguerites ou enlever des fleurs. Et là, devant moi, à travers, alors j'ai évidemment vérifié cette observation auprès de nombreux enfants, la théorie des stades de Piaget s'effondrait comme un jeu de cartes. Parce que l'enfant, s'il avait la structure logique d'inclusion, Piaget, je rappelle aussi, était structuraliste, c'était la grande mode du structuralisme, comme Lévi-Strauss en anthropologie. Piaget disait l'enfant à 6-7 ans est au stade logique, a donc la structure logico-mathématique d'inclusion des classes qui permet de considérer qu'il y a toujours plus de fleurs que de marguerites, puisque les marguerites et les roses sont des fleurs. Et juste après, l'enfant transgressait totalement cette structure logique et répondait comme s'il ne l'avait pas. Donc ce sont ce qu'on appelle des paradoxes, des décalages de performance. Et Piaget, là c'était des découvertes faites après sa mort, mais déjà à son époque, certains auteurs n'osaient pas lui dire qu'il y avait des décalages comme cela. Et Piaget disait, oui, c'était pas grave, ce sont des décalages horizontaux, si c'était au même âge, ou verticaux à des âges différents. Et moi, avec ces découvertes nouvelles, j'ai fini par dire, mais si un structuraliste accepte que dans sa théorie, il y ait à la fois des décalages horizontaux et verticaux, pourquoi pas obliques, et puis la théorie s'écroule. Et à partir de cela, j'ai compris que le développement n'était pas sous forme d'escalier, mais beaucoup plus dynamique et non linéaire, avec différents modes de pensée, différentes stratégies qui coexistent toujours dans le cerveau, des plus intuitives et des plus illogiques, jusqu'aux plus logiques, et que l'intelligence est la sélection de l'une, l'inhibition que vous avez déjà évoquée, pour activer l'autre.
Oui, donc pour résumer, les catégories mises en évidence par Piaget sont exactes, mais elles ne se succèdent pas.
C'est
l'une n'efface pas l'autre.
Complètement. C'est le modèle du développement qui était inexact. Or, c'est essentiel, parce que quand on pense le développement de l'enfant, on pense la construction des connaissances chez l'homme. On pense que c'est que le progrès cognitif. Et en découvrant que le développement de l'intelligence chez l'enfant n'est pas incrémental, de plus en plus abstrait sous forme d'un escalier, mais dynamique et non linéaire, vous comprenez que la notion même de progrès cognitif chez l'homme est dynamique et non linéaire, ce que l'on retrouve en effet dans nos sociétés de façon générale.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut peut-être préciser que ce n'est effectivement pas seulement un effet de décalage, puisque cette coexistence des différents types d'intelligence perdure chez
toute
l'adulte.
Toute la vie. Absolument.
Alors,
et c'est là où je pense que c'est une révision, je dirais, avec beaucoup de conséquences.
Alors précisément, peut-être faut-il faire encore un peu en arrière et réfléchir à la façon dont l'intelligence a été définie, j'allais dire depuis la nuit des temps, en fait, en tout cas depuis que nous réfléchissons. Piaget n'est lui-même qu'un jalon. Est-ce que vous pouvez nous brosser cette vaste fresque?
Alors, je rappelle que le titre donc, de mon livre chez Odile Jacob, c'est « L'intelligence humaine n'est pas un algorithme ». Pourquoi ai-je rappelé cela? Parce que d'abord, la notion, pour répondre à votre question historique de concevoir l'intelligence, on peut dire l'intelligence humaine, notre rationalité a été formalisée de façon précise, notamment par Aristote et le Logos, les syllogismes. Aristote a inventé dans la Grèce antique les syllogismes. Et pourquoi les inventait-il? Pour lutter contre les sophismes, c'est-à-dire les politiques de l'époque qui manipulaient les pensées, ou les paralogismes, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les biais cognitifs, comment soi-même on se trompe systématiquement sans s'en rendre compte. Aristote, qui était empiriste, contrairement à Platon qui était inéiste, Aristote disait « la connaissance se construit dans l'environnement, mais il faut qu'une structure rationnelle, solide, les syllogismes, donc le logos, la logique ». On saute quelques siècles, Descartes a repris cette idée d'Aristote en simplifiant, il voulait que sa méthode, la méthode de Descartes qu'on a tous apprise à l'école, des règles pour la direction de l'esprit, sa méthode impose à notre raisonnement une logique qu'il n'a pas naturellement. Donc, il y a vraiment une continuité d'Aristote à Descartes. Et au XXe siècle, Piaget a repris cette idée de logique en ayant la spécificité de dire « mais voyons comment elle se développe chez l'enfant de façon expérimentale ». Parce que Piaget était déjà scientifique. Il n'avait pas la possibilité d'explorer le cerveau avec l'imagerie cérébrale, mais il faisait déjà l'observation des comportements. Donc, on peut dire qu'on a un continuum de définition de l'intelligence comme étant de la logique, une rationalité logique, d'Aristote à Piaget en passant par Descartes, et pour tous c'était un algorithme en fait l'intelligence, les syllogismes c'est un algorithme, tout ce qu'il y a aujourd'hui codé dans les ordinateurs d'intelligence artificielle sont des si-alors, des syllogismes, des arborescences.
Oui, vous avez dit si-alors, c'est-à-dire du langage.
Du langage, oui, oui, toujours formalisé par un langage qu'on appelle un langage de programmation s'il s'agit d'informatique, donc c'est logique et langage, hein, parce que le logos c'est logique et raison, logique et langage. Donc on retrouve exactement cette notion d'intelligence défini comme un algorithme logique de plus en plus puissant chez Aristote, chez Descartes, chez Piaget, et on semble la retrouver aujourd'hui en intelligence artificielle. Et moi je dis, attention, si l'on regarde comment l'intelligence se développe chez l'enfant, ce n'est pas seulement un algorithme logique. Au contraire, ces algorithmes logiques coexistent avec ce que l'on appelle des heuristiques, des intuitions, des stratégies adaptatives qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours. Je vous donnerai un exemple.
Oui, il faut donner un exemple.
Alors, imaginez, je vous ai donné un exemple tout à l'heure pour la catégorisation, vous vous souvenez, les 10 fleurs, oui, marguerite et de rose, et le jeune enfant se trompe, dit, il y a plus de marguerite que de fleurs, parce qu'il y a beaucoup de marguerite sur la table. Eh bien, l'heuristique là, c'est que quand un enfant doit faire une comparaison de quantité, mais il compare les entités qu'il a devant lui. Donc l'heuristique, c'est la comparaison directe. Il compare, sa pensée va au plus vite, il compare les marguerites aux roses. Mais il oublie le concept de fleur, qui est l'algorithme d'inclusion des classes. Vous voyez déjà comment, dans cet exemple simple, dans le cerveau de l'enfant, la difficulté est la compétition des réseaux neuronaux différents qui, l'un, sous-tend la comparaison perceptive directe des marguerites aux roses, et l'autre, l'algorithme logique d'inclusion des classes, qui est un peu plus lent, qui demande un effort cognitif, qui est analytique, qu'il faut analyser les trois catégories, mais qui, lui, conduit toujours, et de façon exacte, à la bonne réponse, qui est la définition d'un algorithme. Je vous donne un autre exemple pour les auditeurs sur le nombre. Hein, je disais tout à l'heure que l'intelligence, c'est à la fois permanence de l'objet, catégorisation, que je viens de citer, nombre, et après, le chapeau, c'est le raisonnement. Eh bien, un exemple pour le nombre, vous disposez, et je donne ces illustrations dans le livre, 7 jetons sur une table, en dessous un autre alignement de 7 jetons, vous demandez à l'enfant s'il y a le même nombre de jetons ou non, le petit, dès l'école maternelle, donc dès le second stade de Piaget, dira « oui, c'est pareil ». Pourquoi ? Eh bien, il fait une correspondance terme-à-terme de jeton à jeton. Et si sous les yeux de l'enfant, vous écartez l'un des deux alignements, l'autre restant identique, vous lui reposez la question « est-ce qu'il y a pareil le même nombre de jetons ou non ?» dans la ligne du dessus et dans la ligne du dessous, eh bien, tous les enfants, jusqu'à 6-7 ans, vont dire « Ah ben non, il n'y en a plus pareil ». On lui dit « Mais pourquoi ?» Et l'enfant dit « Mais tu vois bien !» Et avec son doigt, il pointe et il suit l'alignement. « Tu vois bien, là, il y en a plus parce que c'est plus long. » Piaget considérait que l'enfant n'avait pas encore, là c'est l'algorithme logique du nombre. On a découvert que beaucoup plus tôt les enfants sont capables de compter, même déjà les bébés au niveau visuel. Donc ce n'est pas l'algorithme visuel d'invariance du nombre par rapport à la longueur qui manque à l'enfant, c'est la difficulté très grande d'inhiber l'heuristique longueur égale nombre. Et partout dans l'environnement, l'heuristique longueur égale nombre marche. Au supermarché, sur ce qu'on appelle des linéaires, hein, les rayons, les magasiniers appellent cela des linéaires, c'est très important, linéaires, à type de produits égaux, s'il y a un alignement plus long, on infère qu'il en reste plus là où c'est plus long. Donc l'heuristique longueur égale nombre marche. Dans les livres de maths pour petits, on a analysé toute la littérature enfantine, on apprend en général les nombres de 1 à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec des fruits ou des animaux. Vous trouvez ça dans toutes les classes de France et d'ailleurs.
Sur beaucoup de frigos aussi. Oui.
Sur des frigos, dans les livres de maths pour petits. 1, une girafe. 2, 2 hippopotames. 3, crocodiles. 4, etc. Girafe. Je l'ai peut-être déjà dit. Jusqu'à 10. Que remarque l'enfant ? Que le nombre augmente, mais que l'espace occupé par les animaux sur la feuille augmente aussi. Donc, une covariation du nombre avec la longueur. Et ce sont ces régularités statistiques que le cerveau détecte en permanence qui créent dans nos réseaux neuronaux des heuristiques, donc des automatismes cognitifs. Vous comprenez dès lors que l'intelligence, c'est de les inhiber. Et c'est ça qui est le plus difficile, et cela reste, comme vous le disiez très bien, toute la vie, d'inhiber nos automatismes cognitifs. Donc l'enfant qui se trompe, ce n'est pas parce qu'il est incapable de compter. L'algorithme, c'est le comptage. Si vous comptez les jetons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 égale 7, donc c'est pareil. Ça, c'est un algorithme. Le comptage est exact, demande un effort cognitif. Et l'heuristique, regardez juste la longueur, va beaucoup plus vite. Or, notre cerveau fonctionne au plus rapide. Donc cet exemple-là, que Piaget avait également testé, ne révèle pas du tout une intelligence à travers un algorithme logique, parce que l'enfant sait déjà compter. Une intelligence à travers l'inhibition de l'heuristique qui marche partout ailleurs, qu'il perçoit et qui, dans ce cas-là, ne marche pas.
Oui, donc vous nous expliquez d'un point de vue extrêmement pratique pour les éducateurs, par exemple, ou les professeurs, ou les instituteurs, que face à une erreur de ce type-là, il ne sert à rien de rappeler la règle indéfiniment, que ça n'y changera rien, mais qu'il faut leur faire utiliser différemment leur cerveau.
Exactement. Hein, là, on est rentré dans des exemples précis pour les éditeurs, et vous voyez immédiatement les implications pédagogiques. Ce que Jean-Pierre Changeux, dans la préface qu'il a rédigée pour mon livre, souligne très bien, outre que c'est une remise en cause de la théorie de Piaget, mais il dit « On a d'emblée des implications pédagogiques inattendues. » Et en effet, elles sont inattendues, parce que classiquement, à l'école, on renforce plutôt le mécanisme d'activation, de répétition. Et si un enfant se trompe,
on pense qu'il ignore la règle.
Exactement. La logique de l'erreur, c'est de se dire il ignore la règle. Donc, il ignore l'algorithme. Hein. Quand on parle d'algorithme, ce sont tous les programmes scolaires, les règles de maths, les règles de français, les règles de raisonnement. Donc, le prof se dit, ou même le parent, hein, il y a beaucoup de parents, grands-parents qui nous écoutent, l'enfant se trompe, donc il ignore la règle, il ignore l'algorithme. Et très souvent, ce n'est pas du tout cela qui se passe. L'enfant se trompe parce qu'il est incapable d'inhiber une heuristique qui est inconsciente pour l'enfant et inconsciente pour l'éducateur. Donc là, il y a un travail de cartographie des heuristiques très important à faire aujourd'hui. Et donc, on répète à l'enfant la notion et ce n'est pas ce dont il a besoin parce qu'il la connaît déjà. Et c'est ainsi que peu à peu, des enfants peuvent décrocher jusqu'au décrochage scolaire, qui est un vrai problème pour l'éducation nationale en France, parce que dès le départ, très souvent, on se trompe sur l'analyse de l'erreur.
Oui, on pense que l'enfant n'a pas appris, alors qu'en fait, il n'a pas appris à utiliser cette règle dans les circonstances.
Voilà.
Alors, pouvez-vous donner quand même un exemple sur l'orthographe, parce que
oui.
Quand on parle d'algorithme, un exemple mathématique, ça ne bouleverse pas nos préjugés, mais sur l'orthographe, c'est beaucoup plus frappant.
L'une des erreurs fréquentes des enfants à l'école, c'est qu'ils écrivent « je les mange » et ils mettent un « s » à « mange ». Parce qu'ils ont surappris qu'après les, on met un S. Et ils connaissent très bien la règle et l'algorithme d'accord avec le sujet. Simplement, dans ce cas-là, une répétition statistique qui vient du professeur. C'est le professeur lui-même qui a répété cette règle. Donc les professeurs, en fait, créent les erreurs. J'ai beaucoup de respect pour les professeurs. Je suis instituteur et nous travaillons, on le dira sans doute après, avec beaucoup d'écoles en réseau pédagogique participatif sur ces questions-là pour identifier les heuristiques, les algorithmes. Est-ce qu'il faut apprendre à l'enfant à inhiber ou faut-il simplement lui répéter l'algorithme comme on fait toujours ? Eh bien, les professeurs, très souvent, c'est en apprenant aux enfants le programme scolaire qu'ils créent aussi des heuristiques qui feront que les enfants se tromperont par ailleurs dans la même matière ou dans une matière voisine.
Alors, on a dit que ça concernait aussi les adultes, mais pas seulement dans le cadre d'un apprentissage. C'est-à-dire que l'intelligence telle que vous nous la décrivez, avec ses différents moyens mis en œuvre, ça peut concerner aussi la vie sociale, la manière dont on s'organise, dont on se penche sur les problèmes de la société, la politique, que sais-je, l'économie. Alors justement, depuis de nombreuses années... peut-être depuis Descartes et ensuite Adam Smith et poursuivons tous les classiques en économie, on a tendance à considérer que l'homme est un homo economicus rationnel. Est-ce que vos travaux de recherche n'en mettent pas aussi en cause plus profondément cette vision de l'homme ?
Oui. Alors, vous savez que l'un de mes collègues contemporains, donc Daniel Kahneman, psychologue, le seul psychologue vivant, lauréat du prix Nobel d'économie en 2002, a mis en évidence chez l'adulte que très souvent nos jugements, nos prises de décision sont illogiques, irrationnelles. Un peu comme Piaget les décrivait chez l'enfant d'école maternelle. Et donc Kahneman a mis en cause le postulat rationnel des agents économiques, ce qui a fait une révolution. Mais Kahneman travaillait chez l'adulte. Mon équipe travaillant chez l'enfant au cours du développement, on était confronté à un paradoxe scientifique immense. Se dire, mais Piaget nous décrit ce qu'on évoquait au début de l'émission, que l'enfant, stade par stade, passe des intuitions initiales à la logique et à la rationalité finale à la fin de l'adolescence, donc postulat de rationalité de l'adulte, et Kahneman décrivait exactement l'inverse, décrivait un adulte non logique et rationnel. Ce qui, vous le comprenez, rentrait assez en résonance avec ce que j'évoquais tout à l'heure et que je découvrais en même temps chez les jeunes enfants, qui pouvait être logique. Et juste à la question d'après, il suffisait de modifier un tout petit peu la question ou écarter les jetons pour que l'enfant soit tout à fait illogique et intuitif. Donc la découverte, la coexistence de la rationalité et de l'irrationalité chez l'enfant rentrait pour moi en écho avec ce que Kahneman découvrait d'une irrationalité dominante chez l'adulte. Mais Kahneman donc, n'avait pas étudié le développement ni n'avait pas les technologies d'imagerie cérébrale à ce moment-là pour voir réellement comment ces heuristiques et ces algorithmes entraient en compétition dans le cerveau et surtout comment le cortex préfrontal à l'avant inhibe les heuristiques. Donc moi j'ai essayé de faire tout cela et on a en effet à partir de ça découvert que l'intelligence en développement chez l'enfant, donc chez l'humain, comporte trois systèmes. Le système des algorithmes. On ne conteste ni Aristote, ni Descartes, ni Piaget. Il y a bien une logique qui se construit chez l'humain, qui est comparable aux algorithmes de type si-alors ou formalisable, comme on peut l'utiliser en informatique et en intelligence artificielle, qui est, comme vous le disiez très bien, un langage. Donc il y a bien une forme de logique qui se construit chez l'humain, système algorithmique, que Kahneman a appelé le système 2 parce qu'il est toujours en retrait chez l'adulte. Le système 1, c'est celui des heuristiques qu'on évoquait. Donc je redonne les définitions pour être clair pour les auditeurs. Système 1, heuristique, c'est-à-dire des stratégies mentales, donc cognitives dans le cerveau, très rapides, très efficaces, qui marchent très bien, très souvent, mais pas toujours. C'est typiquement longueur égale nombre. Ça marche très souvent, on a vu les cas, sauf quand il y a 7 jetons écartés, 7 jetons rapprochés, ça ne marche pas, il faut inhiber longueur égale nombre. D'où mon idée, et c'est ça la découverte que j'ai pu faire avec mes collaborateurs, d'un troisième système d'arbitrage inhibiteur. Donc système 1, heuristique, système 2, algorithme. Il se fait que, découverte de Kahneman, prix Nobel d'économie, que le système 1, y compris chez l'adulte, domine toujours sur le système 2. Donc nous sommes plutôt irrationnels, même si la logique existe sans doute quelque part. Vous comprenez que dès lors, c'est presque déductif que de considérer qu'il faut que se développe au cours des âges un troisième système d'arbitrage qui permet au cas par cas d'inhiber les heuristiques pour activer les algorithmes. De ce fait, j'introduisais la notion d'inhibition dans le monde de l'éducation et du développement cognitif. Tout le monde me disait...
Fini la spontanéité.
Voilà, l'inhibition c'est négatif. Un enfant inhibé n'est pas intelligent, un enfant inhibé n'est pas créatif. Je leur disais, vous vous trompez totalement sur la notion d'inhibition. Du point de vue biologique, la notion d'inhibition c'est le cœur même de l'adaptation. Inhiber un automatisme, faire une conduite de détour, inhiber dans la jungle, jadis les animaux, ils voyaient un prédateur, ils devaient absolument inhiber le chemin habituel qui les font passer par le prédateur pour activer une conduite de détour en calculant le trajet, c'est-à-dire par un algorithme logique ou spatiale. Bref, j'ai découvert cela. On l'a montré dans de nombreuses situations qu'à chaque fois, et vous voyez que ça marche pour l'exemple du nombre, l'heuristique, c'est longueur égale nombre. L'algorithme, c'est le comptage. Il faut absolument, dans la tâche des jetons que j'ai évoquée, inhiber l'heuristique pour activer l'algorithme. Pour la catégorisation, l'heuristique, c'est comparaison directe des deux ensembles qui sont sous les yeux. Algorithme, c'est la logique d'inclusion des classes, se dire que les marguerites sont incluses dans les fleurs, idem pour les roses, donc il y aura toujours plus de fleurs, c'est un algorithme. On pourra prendre des exemples pour le raisonnement chez l'adulte, où les adultes continuent de se tromper, y compris les polytechniciens. Donc en permanence, ces trois systèmes sont à l'œuvre. Ce qui veut dire que les intuitions ne disparaissent pas, n'est pas un stade qui disparaît auquel se substitue la logique selon une démarche d'escalier, comme le pensait Piaget. Nos intuitions restent toute notre vie. Notre pensée enfantine, spontanée, très irrationnelle, quelquefois, ce qui fait notre charme d'humain, perdure toute notre vie. Simplement, on a appris plus ou moins bien, à les inhiber. On a appris plus ou moins bien à les inhiber, et dès lors, chez l'adulte, il y a souvent des décisions absurdes, des conduites irrationnelles, par défaut d'inhibition.
Alors, il faut peut-être préciser à ce stade que l'objectif pour devenir plus intelligent n'est pas de supprimer l'heuristique, mais d'apprendre à la supprimer au cas par cas, lorsque c'est nécessaire, c'est-à-dire de discriminer les moments où on en a besoin et les moments où on n'a pas besoin.
C'est ça l'intelligence. Et c'est ça ce que j'appelle un cerveau fin stratège. Et cela dépend de choses parfois très subtiles, y compris des émotions. Donc on étudie les émotions qui guident cette inhibition. Parce que, comme je l'ai dit très rapidement tout à l'heure, on a découvert grâce à l'IRM, et mon laboratoire fut le premier en France à utiliser les technologies d'imagerie par résonance magnétique, anatomique et fonctionnelle, avec des enfants volontaires, des écoles, dans un projet pédagogique, avec les professeurs, les recteurs, les parents, évidemment, qui accompagnent leurs enfants en laboratoire. Et nous avons découvert l'épicentre de cette inhibition, de ce contrôle inhibiteur, dans le cortex préfrontal, à l'avant du cerveau. Nous avons tous une zone du contrôle inhibiteur qui possède des neurones à axones longs, c'est-à-dire qui peuvent envoyer des ordres inhibiteurs et activateurs sur l'ensemble du cerveau. Si vous catégorisez, ben c'est une région dans le lobe temporal du cerveau, donc plus à l'arrière, qui va avoir du mal entre ses heuristiques et ses algorithmes de catégorisation. Eh bien, le cortex préfrontal, tel un ministre de l'Intérieur qui enverrait des ordres à un préfet en province qui ne parvient pas à résoudre un conflit, le cortex préfrontal a des neurones à axones longs pour faire cela. Donc, on a découvert physiologiquement, cognitivement, le fonctionnement de cet épicentre inhibiteur dans le cerveau. Et c'est lui qui, peu à peu, rend l'enfant ou l'adulte de plus en plus intelligent, c'est-à-dire un cerveau robuste qui est capable, au cas par cas, grâce aux émotions qu'il ressent, trois types d'émotions, le regret, vous comprenez qu'il faut regretter ou anticiper le regret avant d'inhiber. Donc moi j'ai dirigé une thèse de doctorat entière sur le regret, l'anticipation du regret. Il faut une pédagogie du regret à l'école, parce que c'est en anticipant le regret, si l'enfant, imaginez que ce soit des bonbons qu'il doit manger, mais s'il dit simplement qu'il y en a plus là où c'est plus long, alors qu'on a construit les choses de telle sorte qu'il y en ait plus dans l'alignement le plus court, l'enfant va regretter sa réponse, puisqu'il n'aura pas autant de bonbons à manger. Donc vous voyez comment très vite la gourmandise peut rendre l'enfant mathématicien. Donc le regret, anticipation du regret, la curiosité, être curieux de faire autrement, et le doute. Et là, on retrouve le doute cartésien, par exemple. Donc nous étudions très finement, notamment en lien avec Antonio Damasio aux États-Unis, très finement comment ces émotions peuvent éveiller dans le cerveau de l'enfant ce contrôle inhibiteur des heuristiques par rapport aux algorithmes. Et c'est ça le cœur de l'intelligence.
Là, on en revient au propos introductif de l'émission, c'est qu'il n'aurait surtout pas fallu se tromper. Vous ne souhaitez pas supprimer l'heuristique au profit des froids algorithmes à l'avenir.
Voilà, pas du tout.
Et donc, on sort un peu des catégories habituelles. D'habitude, on se dit, pour être intelligent, il faut tuer ses émotions, il faut faire appel à la pure raison, et à quelque chose qui ressemble quand même à un raisonnement logique, algorithmique, ce qui est à la fois vrai. Et pas vrai, car pour les maîtriser, justement, il faut cultiver aussi cette part intrinsèquement humaine. Quelle émotion ? Alors précisément, revenons à ce comparatif et à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire, voilà, on a toujours un petit peu peur, est-ce que les ordinateurs vont faire mieux que nous ? Est-ce qu'ils sont plus performants ? Dans la première partie du propos, on peut penser que oui, car eux ne sont pas perturbés par de l'heuristique.
Très bien.
Leur algorithme est forcément toujours exact, ils l'appliquent. Mais c'est plus compliqué.
Tout à fait. Ce que vous dites est tout à fait exact. Sinon, j'en reviendrai à Aristote, Descartes et Piaget. Ce qui est fin et intéressant, c'est que pour ressentir émotionnellement. Ce qu'il faut inhiber et ce qu'il faut activer, il faut autre chose que les algorithmes logiques. Alors déjà, Montaigne le disait un peu, hein, à l'époque des guerres de religion, où il était aussi confronté à l'irrationalité qui conduisait à la violence, Montaigne disait qu'il faudrait chez l'enfant une éducation au contrôle de l'esprit. C'est le contrôle inhibiteur dont je parle aujourd'hui et qu'on découvre dans le cerveau, qui est un facteur aussi de tolérance. Inhiber le point de vue heuristique égocentré pour activer l'algorithme allocentré, c'est-à-dire imaginer le point de vue de l'autre sur une même situation. Donc ce que je décris est non seulement au cœur de l'intelligence, on va dire logico-mathématique, mais aussi social et est un facteur de tolérance. Alors j'en reviens à ce que vous disiez qui est très juste, il ne s'agit pas du tout de gommer les intuitions, de gommer les émotions. Au contraire, une heuristique, dans la définition que j'ai donnée, marche très souvent. 9 fois sur 10, l'heuristique est une bonne adaptation au réel. Là, et on peut fonctionner, je dirais, en mode automatique. Et ce n'est pas un stade qui disparaît. Donc nous avons toujours ce mode intuitif et automatique, et c'est pourquoi Kahneman a eu son prix Nobel, parce qu'il l'a découvert, la dominance de ce mode automatique chez des adultes, notamment économistes, que l'on postulait être rationnels. Donc ce mode automatique domine. Ce que je décris, ce sont les 4 figures où il faut être intelligent, soit collectivement, soit individuellement, et être capable, dans ce cas-là, alors que c'est une réponse très dominante, de l'inhiber pour activer un algorithme aussi disponible dans le cerveau. Et là, c'est de la stratégie, grâce au cortex préfrontal, dont je dois vous dire, pour que les auditeurs comprennent bien, que ce cortex préfrontal qui sous-tend l'inhibition, en fait, lui, mature très lentement tout au long de l'enfance. Ça, c'est un fait physiologique, biologique. Et c'est ce qui explique que notre capacité à inhiber les automatismes et les heuristiques soit aussi lente chez l'enfant et l'adolescent. Voilà, Piaget n'avait pas vu ce processus. Or, je l'ai vu, on l'a vu, et de surcroît, on découvre grâce à l'IRM anatomique que sa maturation est très lente. Ce qui veut dire aussi qu'il restera toute la vie plus fragile. C'est pourquoi, tout en étant logique, en ayant bien appris nos règles logiques à l'école, ou en les ayant de façon innée pour d'autres auteurs, tout en étant logique, très souvent, nous sommes incapables d'inhiber des heuristiques qui nous dominent dans certains cas. Et pour ressentir dans un cas particulier ce qu'il faut inhiber et ce qu'il faut activer, il faut en effet avoir une partie du cerveau émotionnel. Alors ce ne sont pas les émotions impulsives qui, elles, conduisent aux heuristiques et au système 1. Il y a d'autres types d'émotions plus fines qu'on appelle cognitives ou intellectuelles, avec Damasio, et qui sont, que j'évoquais tout à l'heure, le regret, le doute ou la curiosité. Ces émotions sont aussi dans notre cerveau. C'est ce qu'on appelle des émotions contrefactuelles, c'est-à-dire qui vont contre les faits. Pour inhiber, il faut aller contre une réponse, contre un fait. Et donc, anticiper le regret, c'est aller contre une réponse que l'on pourrait donner. Donc, c'est une émotion contrefactuelle. Et ces émotions-là, elles sont absolument essentielles à l'intelligence. Et pour les ressentir, il faut un corps. Il faut un processus vital. Il faut de l'homéostasie. Il faut qu'il y ait un danger, soit un danger vital, soit l'enfant qui va se tromper à l'examen ou à la question du professeur, c'est vital pour lui à ce moment-là. Et donc, vous voyez le lien dans ce que j'ai décrit entre le corps, le cerveau, les émotions qui font le trait d'union, regret, anticipation du regret, doute, curiosité, qui vont finement guider l'inhibition des heuristiques au bon moment. Et là, c'est exactement ce qui manque à l'intelligence artificielle contemporaine. On nous parle de, et je crois vraiment au côté scientifique des informaticiens, ils vont progresser, mais mon livre les invite à progresser dans une autre direction. Ce ne sont pas les big data qui vont régler le problème, parce que les big data sont des grandes bases de données, souvent étiquetées, codées par des humains, avec tous leurs biais, les heuristiques que j'évoquais tout à l'heure. Et donc les heuristiques, les automatismes cognitifs dans les données vont ne faire que s'amplifier avec de grandes bases de données. Donc il faudrait, et je dis dans mon livre...
Il y a des exemples, il y a des exemples.
Ah oui, il y a plein d'exemples. Il y a des systèmes d'intelligence artificielle qui sont devenus racistes, qui sont devenus misogynes, qui ont confondu la couleur de...
Là, dans ce cas-là, ils sont devenus racistes et misogynes parce qu'ils ont étudié la façon dont des gens interagissaient sur des réseaux sociaux.
Donc
on pourrait penser que leur erreur provient de comportements humains. Je trouve que l'exemple du repérage des chats d'assaut est plus froid et factuel et donc sidérant.
Alors, l'exemple des chars, c'est l'armée américaine qui avait créé un système d'intelligence artificielle pour détecter les chars ennemis, avec donc de grandes bases d'images, etc. Et au final, ils se sont rendus compte que le système réagissait quand, par beau temps, quand le ciel était bleu. Il se fait que toutes les images de chars avaient été prises sous ciel bleu plutôt que gris. Et donc, l'intelligence artificielle a fonctionné sur ce qui était pour elle la statistique la plus dominante, la couleur du ciel, et non la présence ou l'absence d'un char ennemi. Vous voyez comment cette capacité d'inhibition que j'évoque est absolument centrale. Cette erreur du système d'intelligence artificielle de l'armée américaine est aussi intuitif que l'enfant qui confond la longueur avec le nombre. C'est ce qu'on appelle des variables perceptives confondues. Donc il y a un vrai enjeu, et je pense être l'un des seuls à le dire aujourd'hui, pour l'intelligence artificielle, où est le cortex préfrontal des ordinateurs et des systèmes intelligents? Comment modéliser le contrôle inhibiteur? Et ce n'est pas un algorithme au sens classique. Comment un système va-t-il être capable d'inhiber ses propres heuristiques qui vont être énorme avec les grandes bases de données. Donc ce système inhibiteur est absolument vital pour éviter les bugs, les biais des systèmes d'intelligence artificielle. Et vous voyez qu'explorer l'enfant donne cette clé-là auquel ne penserait pas un informaticien.
Alors c'est très bien que les informaticiens y travaillent, mais on voit quand même un obstacle terrible, c'est que, si j'ai bien compris, vous nous expliquez que ce système inhibiteur est lié en quelque sorte à la conscience. Et oui, on en revient toujours à la même chose s'agissant d'intelligence artificielle. Le saut n'est pas dans la vitesse de calcul, il est dans la conscience.
Absolument, parce que la vitesse de calcul leur permet d'avoir des algorithmes très puissants. Je disais tout à l'heure que les algorithmes demandaient un effort cognitif. Compter les jetons, par exemple, demandait un effort cognitif. Mais pour un ordinateur, ça ne nécessite aucun effort. C'est extrêmement facile de déclencher avec une puissance accrue, un nombre d'opérations incroyables, ces calculs. Donc c'est autre chose, avoir en effet la conscience de ce qu'il faut inhiber, de ce qu'il faut activer à un moment donné, et avoir la conscience de ce qui est bon pour soi ou pour les autres.
Donc, ce qui implique... Donc c'est la conscience de soi.
Voilà, la conscience de soi qui implique les émotions et le corps. Alors, je suis scientifique, donc je crois à la capacité de progrès des sciences. Donc, je n'exclus pas du tout que les spécialistes d'intelligence artificielle puissent s'en approcher. Je dis simplement, vous aurez de grandes difficultés parce que pour inhiber les heuristiques qui existent dans les systèmes dits intelligents, donc ils ne sont pas intelligents s'ils se laissent dominer par leurs heuristiques. Pour inhiber ces heuristiques, il faut des émotions, doute, regret, curiosité. Et ces émotions sont elles-mêmes totalement dynamisé par le corps et le danger. Si un ordinateur se détruit ou s'autodétruit, ça n'a aucune importance pour lui. Il n'en a pas conscience. Donc, il y a sans doute des obstacles importants, épistémologiques, qui font qu'il faut être prudent avec ces systèmes dits intelligents parce qu'ils peuvent simplement être construits pour des super algorithmes qui vont se laisser très facilement tromper par des heuristiques qui, elles, vont donner des résultats totalement inattendus et qui n'ont rien à voir avec de l'intelligence.
Il se laissera enfermer dans une logique parfaitement partielle sans avoir le recul nécessaire pour juger du résultat. Il y a un moment où vous donnez un conseil pratique, parce que tout l'enjeu, finalement, pour un être humain, pour déclencher cette inhibition, c'est de lutter contre la rapidité, puisque l'heuristique, elle est rapide, elle a une solution immédiate. Et donc, pour nos auditeurs, comment ne pas se laisser tromper par ces intuitions et cette heuristique? Premier réflexe, prendre du recul.
Prendre du recul. Pour les jeunes qui nous écoutent, tourner sept fois son pouce dans... Ou les chefs d'État, tourner sept fois son pouce dans sa main avant de tweeter. Prendre du recul. Alors, vous avez tout à fait raison. Le Kahneman, qui a publié un livre sur le résumé de ses travaux qui ont conduit au prix Nobel, l'a intitulé « La vitesse de la pensée », en disant qu'il y a deux vitesses de la pensée, le système 1, les heuristiques très rapides, et les algorithmes plus lents. Et comme notre cerveau, et plus encore dans le monde aujourd'hui, fonctionne dans la vitesse, la rapidité d'adaptation, eh bien, on utilise les heuristiques. Et on a raison de le faire, puisque très souvent, elles marchent. Simplement, on n'a pas appris à l'école, parce que ce processus n'avait pas été identifié. Maintenant, il l'est. On a des applications pédagogiques. Alors, prendre conscience de nos heuristiques, donc c'est vrai, il y a la question de la conscience, et les inhiber. Et c'est vrai face aux écrans, mais c'est vrai aussi dans une discussion que l'on peut avoir, et ce qui crée des décisions absurdes. Je vous disais que les tâches de raisonnement logique qu'on applique, pas seulement chez l'enfant, chez l'adulte, et je l'ai fait en France avec des polytechniciens qui tous se trompaient dans des tâches de logique déductive assez élémentaires. Il suffisait d'un petit piège introduit dans la question pour qu'un mode heuristique dominait. Et je leur indiquais pourquoi ils s'étaient trompés. Certains étaient contents, d'autres non. Et ça me permettait d'introduire le rôle des émotions dans cette affaire.
Vous pouvez nous raconter l'expérience elle-même.
Alors, si nous avons le temps, je vous la décris. Elle est dans l'un des chapitres du livre. Alors, il y a plusieurs expériences différentes. Vous avez une règle logique qui est inscrite sur l'écran d'ordinateur ou au tableau. S'il n'y a pas de carré rouge à gauche, virgule, alors il y a un cercle jaune à droite. C'est donc une règle de type « si alors », un syllogisme réduit à sa plus simple forme, ce qu'on appelle une règle conditionnelle. C'est du langage, mais organisé logiquement. Donc, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Vous pouvez, auditeur, dessiner l'énoncé avec des crayons de couleur sur, sur une page blanche. Et vous disposez de 12 formes géométriques, des carrés, des cercles, des losanges, qui peuvent être bleu, jaune, rouge ou vert. Imaginez que toutes ces formes géométriques sont mélangées sous vos yeux, sur la table, et qu'au-dessus est écrite la règle que j'ai énoncée. S'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Et votre tâche, c'est de rendre la règle fausse. Vous devez sélectionner deux formes dans une case de réponse. Il y a une double case, un rectangle, vous imaginez, coupé en deux. Case de droite, c'est à droite. Case de gauche, c'est à gauche. Donc vous devez sélectionner deux formes géométriques dans les 12, en mettre une à gauche et une à droite, de telle sorte que la réponse que vous constituez avec ces deux formes aille contre la règle. Eh bien, la réponse dominante, si vous reconstruisez ce petit matériel, vous le verrez, c'est carré rouge, cercle jaune. Les gens se disent, bon, alors, ils nous demandent de rendre la règle fausse. La règle dit, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. Eh bien, on va mettre un carré rouge à gauche et puis un cercle jaune à droite. En fait, c'est une heuristique d'appariement perceptif. On a appris qu'en général, pour aller contre un élément qui est nié, on se le représente. Je vous donne un exemple. Surtout, n'imaginez pas un éléphant rose. Vous imaginez l'éléphant rose. L'image mentale est irrépressible. Si on dit à un enfant, il ne reste plus de glace au chocolat, il pense à la glace au chocolat toute la journée. Ce que je vous dis est irrationnel, mais ça fait que l'on construit un mode de raisonnement trop rapide qui court-circuite la pensée, selon lequel, pour aller contre une règle avec une négation, on apparie. Or, dans ce cas-là, l'algorithme est tout autre. La règle disait, s'il n'y a pas de carré rouge à gauche, alors il y a un cercle jaune à droite. L'algorithme, c'est une table de vérité, telle qu'on aurait pu la concevoir d'Aristote, une table de vérité avec un antécédent et un conséquent, partie ici, partie alors, ça fait deux colonnes. Et on peut avoir, avec une valeur de vérité très simple, vrai ou faux, on peut avoir antécédent vrai, conséquent vrai, antécédent vrai, conséquent faux, antécédent faux, conséquent vrai, antécédent faux, conséquent faux, ce qui fait quatre cas de figure. Et tout le monde sait, même si on l'oublie à ce moment-là, que pour rendre une règle conditionnelle fausse, il faut que l'antécédent soit vrai, qu'on soit dans les conditions d'application de la règle et que le conséquent soit rendu faux, soit transgressé. Pour la justice, on le sait, personne ne se laisserait accuser au nom d'une loi s'il n'est pas dans les conditions d'application de cette loi. Mais on ne l'applique pas. Alors dans ce problème-là, il faut donc un antécédent vrai et un conséquent faux. L'antécédent, c'est s'il n'y a pas de carré rouge à gauche. Il faut donc qu'il n'y ait pas de carré rouge. Pour dire simple, il faut inhiber carré rouge. Or, tout le monde répond, enfin 90% des personnes interrogées, répondent carré rouge. Ensuite, donc vous devez mettre par exemple un carré bleu. Le carré bleu n'est pas un carré bleu, perceptivement, c'est un non-carré rouge. À ce moment-là, vous passez dans le cerveau de la perception à la logique. Donc si vous mettez un carré bleu, vous êtes bien dans une situation où il n'y a pas de carré rouge à gauche. Il faut rendre la règle fausse, donc il ne faut pas mettre de cercle jaune à droite. Il faut inhiber cercle jaune et mettre, par exemple, losange vert. Ça, c'est une réponse qui demande un peu de réflexion. Vous devez dérouler dans votre mémoire de travail, dans votre cerveau, l'algorithme antécédent vrai, conséquent faux. Ça prend un peu plus de temps, comme l'enfant qui devait compter. Mais logiquement, l'adulte arrive à la bonne solution, inhibe les deux éléments cités dans la règle et active une réponse comme celle que je vous ai donnée. Pour les auditeurs, il y a plusieurs réponses logiques possibles. Il faut simplement qu'il n'y ait pas de carré rouge à gauche et pas de cercle jaune à droite. Et donc, j'ai inventé et appliqué ce test parce qu'il évalue vraiment dans le cerveau, notre capacité à inhiber la perception pour activer la logique. Et ce n'est pas de la logique en tant que telle qui fait défaut dans cette tâche-là. On a tous cette règle logique de savoir qu'il faut un antécédent vrai et un conséquent faux pour rendre une règle fausse. On peut penser que les polytechniciens en particulier l'ont aussi. Eh bien, comme vous et moi, ils se trompent. Ils répondent carré rouge, cercle jaune. Et là, vous avez un exemple, je dirais, éclairant, magistral de, comme l'avait découvert Kahneman, d'irrationalité dans une tâche de logique déductive élémentaire. Donc, selon le modèle de Piaget, on ne devrait pas se tromper étant adulte. On devrait répondre logiquement. La difficulté est que l'heuristique d'appariement perceptif, donc apparier que les deux éléments cités dans la règle dominent, est plus rapide, vitesse de la pensée, et l'algorithme logique exact est un peu plus lent, et notre cerveau n'a pas la puissance de calcul ou de la force pour inhiber l'heuristique, et cette force, elle est inhibitrice. Ce dont je parle, c'est l'inhibition créatrice, l'inhibition qui conduit à l'intelligence. Et on a testé cela très précisément. On a fait des apprentissages pré-test, post-test, en caméra d'imagerie cérébrale, avec les individus allongés qui résolvent ces tâches de raisonnement logique programmées sur un ordinateur qui était incrusté dans la caméra d'imagerie cérébrale. On a entraîné entre le pré-test et le post-test soit la logique pure, comme l'aurait fait Aristote, Descartes ou Piaget, soit l'inhibition selon notre nouvelle hypothèse. On a découvert que seuls les élèves qui avaient eu l'apprentissage à l'inhibition ont trouvé la solution logique en post-test, et lorsqu'ils la trouvaient, une reconfiguration qui est, que vous avez vue dans le livre, on a publié l'image parce qu'elle est pour nous spectaculaire, de la partie arrière vers l'avant du cerveau. C'est-à-dire que quand on est sur le mode heuristique, c'est la partie postérieure du cerveau qui s'active dans cette tâche, et quand on parvient à l'inhiber, donc inhiber carré rouge, cercle jaune, pour activer une solution logique, c'est chez le même élève la partie avant, cortex préfrontal, qui s'active. C'est un phénomène fabuleux de plasticité, de reconfiguration de l'arrière vers l'avant du cerveau. Selon Piaget, étant à l'âge adulte, la prédiction aurait été que le cortex préfrontal, donc la logique, l'abstraction, devait d'emblée être activée dans ce type de tâche. Ce n'est pas le cas. Ce sont bien les heuristiques. Kahneman a raison, mais Kahneman est pessimiste. Pour Kahneman, on est fondamentalement irrationnel. Selon ma théorie, on peut ne pas l'être en inhibant l'heuristique et en créant dans le cerveau des reconfigurations cérébrales grâce à une intervention pédagogique comme celle que j'ai observée, ce qui ouvre un champ formidable pour l'éducation, parce que ce passage de l'heuristique à l'algorithme logique dans la tâche de raisonnement que je vous ai décrite est déclenché par une interaction sociale, une intervention pédagogique que nous faisions entre un professeur et un élève. Et si le prof n'apprend que la logique à l'élève, il va comprendre évidemment dans la tâche d'apprentissage, mais il ne va pas transférer à la situation initiale et retombera dans le piège du carré rouge et du cercle jaune. Donc on a vraiment, je vais dans ces détails, montrer très précisément, scientifiquement, biologiquement, le rôle de cette capacité inhibitrice. Et sans doute est-ce parce qu'elle n'a pas été assez éduquée chez l'enfant et à l'école que nous restons adultes, y compris à haute formation académique, souvent aussi irrationnels.
Ultime précision peut-être, c'est que cette inhibition peut toutefois rimer avec plaisir. Nous expliquer d'un passage du livre, c'est que justement, cette reprise de contrôle de son intelligence,
cette
capacité à réfléchir en étant conscient, offre plus de plaisir à l'individu que le fonctionnement en mode automatique.
C'est certain. Et nous l'observons chez l'enfant. On fait maintenant, et on fait toutes ces découvertes hein, sur tous les domaines que j'ai cités. On a vraiment de très nombreuses publications scientifiques expérimentales. Donc on en déduit des applications pédagogiques et on entraîne le contrôle inhibiteur chez l'enfant par des petits jeux très simples. Il y a une heuristique, un H avec des grandes jambes qui court très vite sur, pour aller sur la ligne d'arrivée. L'algorithme, un A qui a des plus petites pattes, court plus lentement. Donc on peut jouer cela avec des marionnettes ou avec des dessins au tableau. Et Capitaine Inhibition qui arrive dans la course, qui siffle, qui arrête l'heuristique pour laisser passer l'algorithme sur la ligne d'arrivée. Eh bien, les enfants, quand on fait ces jeux-là, sont absolument passionnés. On a d'autres tests que vous avez vus et qui sont aussi dans un livre pour enfants que je viens de publier chez Nathan, Grégoire Borst.
Dans la collection Kididoc.
Kididoc, voilà, qui succède aussi à Question-Réponse. On a fait deux livres pour les enfants en un an. Et ces petits tests y sont. Eh bien, nous, on remarque le plaisir, pour répondre à vos questions, incroyable que les enfants ressentent lorsqu'on entraîne leur cortex préfrontal et cette capacité d'inhibition, donc de contrôle de soi, de fait. Et c'est sans doute ce qui procure le plus de plaisir. Et pour tout vous dire, cher Christophe, ma prédiction, c'est que précisément l'intelligence artificielle va ou doit aller dans cette direction de simuler le contrôle inhibiteur humain. Très difficile parce qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'émotion. Mais pourquoi pas si c'est leur projet. Mais surtout que les générations qui viennent ont besoin de ce plaisir. Quand on va aujourd'hui sur un moteur de recherche, que je ne citerai pas, mais un grand moteur de recherche, on a cru jadis que chacun trouvait la même chose. On sait aujourd'hui que si on fait une demande, vont nous être représentés tout les choix, les demandes, les voyages, les achats qu'on a fait antérieurement. On nous enferme donc dans nos heuristiques. Cette capacité d'inhibition dont je parle est essentielle aujourd'hui. Et je pense que les nouvelles générations ont précisément envie qu'on leur présente autre chose. Parfois des choix orthogonaux à ceux qu'ils ont fait. C'est là qu'on ressent du plaisir, de la créativité, la découverte d'autre chose. Et donc ce plaisir à inhiber est absolument subtil, essentiel, formidable. Et c'est un plaisir, en effet, peut-être qu'on n'a pas encore pensé à suffisamment éveiller chez l'humain parce qu'on avait une vision négative de l'inhibition.
Olivier Houdet, merci beaucoup. Je pense que tout ceci fait une excellente conclusion et une invitation à poursuivre cette recherche et à cultiver ce plaisir et tous les nouveaux horizons qui s'ouvrent dès lors qu'on reprend le contrôle. Et peut-être d'ailleurs, une dernière question, non, finalement, c'est que les algorithmes et l'heuristique, les algorithmes d'intelligence artificielle, ceux des ordinateurs et l'heuristique, partagent une même caractéristique, la vitesse. La vitesse qu'on nous présente sans cesse comme l'alpha et l'oméga de nos sociétés aujourd'hui, alors que vous nous expliquez qu'au contraire, l'intelligence, c'est de prendre du recul, de reprendre son temps, de reprendre le contrôle. Et c'est certainement ce que permet votre ouvrage. Ce recul, cette prise de conscience de la façon dont fonctionne notre propre cerveau va nous rendre libres et certainement plus heureux. Et c'est pourquoi j'invite nos auditeurs à se plonger dans votre ouvrage, à prendre le temps de le consulter. Je reprécise donc ces références. L'intelligence humaine n'est pas un algorithme, par Olivier Houdet, avec une préface de Jean-Pierre Changeux. C'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup.
Merci. Thank you.